Est-ce qu'il y a des scénaristes qui peuvent être très bons dramatiquement, mais qui n'ont pas le sens de la mise en scène? Et donc, est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes, justement, dans cette collaboration scénariste-réalisateur?
Si, si, c'est pour ça que moi j'ai souvent travaillé avec des scénaristes ou essayé de faire travailler des scénaristes sur des séries, par exemple, de former des équipes. Et souvent, le problème, c'est la méconnaissance du terrain, c'est-à-dire de la réalité des choses, de la mise en scène et surtout du montage, qui fait que c'est souvent assez flou et assez peu tout axé sur la narration écrite et très peu sur le visuel. Alors qu'au bout du compte, un film, c'est quand même des images, quoi. Et on apprend beaucoup déjà au tournage, de voir comment les choses se fabriquent, et ensuite au montage, pour voir ce qu'on a fait qui est complètement inutile, ou ce qu'on aurait dû faire qui aurait traduit beaucoup plus simplement que des tonnes de dialogues, une émotion, une envie ou quelque chose. Donc ça, c'est... voilà, il ne faut pas se couper quand on est auteur de tout ce qui est image, en fait. Surtout pas. Je crois pas.
Alors, on arrive à, dans la chronologie, on va remonter à ton premier long métrage, donc Cross, qui date de 1987. Et déjà, il y a quelque chose d'étonnant, c'est le genre du film, qui est vraiment ta marque de fabrique, donc je ne sais pas si tu peux nous en dire quelques mots, et aussi le casting, puisque là aussi, c'est une autre particularité là, de tes choix de metteur en scène, c'est souvent des acteurs que tu découvres qu'on ne connaît pas comme acteur, là en l'occurrence Michel Sardou qui accepte de jouer le rôle principal pour la première fois, je pense.
Ou deuxième fois, je crois.
Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment ce long métrage a pu se faire, se financer? Comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un comme Michel Sardou de jouer le rôle principal dans un film? Comment est-ce qu'ensuite c'est perçu par la critique?
Alors, comment ça s'est fait? Je ne me souviens plus très bien, à vrai dire. Je sais qu'on devait avoir un casting normal au départ. Il y a eu des problèmes pour trouver un acteur principal. C'était mon premier film. J'avais écrit pas mal de scénarios, mais c'était mon premier long métrage. Donc, on avait un peu de mal à trouver des acteurs à l'époque vraiment vedettes, quoi, pour participer au film. Et un jour, je passais dans la rue, je vois une affiche de Michel Sardou qui avait des lunettes noires, je me souviens, des lunettes de soudeur. J'ai trouvé qu'il avait une bonne tronche et je m'étais dit, tiens, il serait pas mal pour faire le film. Et à l'époque, ce qui est drôle, c'est que je connaissais pas tellement Sardou comme chanteur, donc ni son image qui était assez négative à l'époque, ni ce qui trimbalait avec lui. Je m'étais juste basé sur l'aspect physique. C'est sans doute mon passé de dessinateur, donc c'était vraiment un espèce de flash comme ça que j'avais eu. Ce qui d'ailleurs n'a pas aidé le film après, parce qu'il a été assez mal perçu.
Pour des raisons politiques, tu penses?
Pour des raisons politiques, des raisons d'image, des raisons de se dire pourquoi il est allé chercher un chanteur, etc. Et moi, je l'avais fait de manière assez candide, en fait, ce choix-là. D'ailleurs, il s'était pas mal débrouillé dans le film, mais le film a été moyennement perçu. C'est devenu, je ne dirais pas un film culte, c'est beaucoup dire, mais il y a plein de gens qui aiment ce film aujourd'hui, parce que d'abord, il est rare, il n'est jamais sorti en DVD, donc on peut l'avoir sur Internet ou des choses comme ça. Et souvent, les gens sont surpris, parce que c'est pas ce qu'on croit, quoi. C'est pas un petit nanar des années 80, c'est une espèce d'essai de faire une série B à l'américaine, avec très très peu de moyens, tourner tout de nuit... Donc, avec une espèce de folie comme ça, et c'était. Oui, c'était une tentative, une belle tentative en fait. Je sais pas, je l'ai jamais revu le film, donc je sais pas s'il a bien tenu le passage des ans, mais en tout cas, c'était assez marrant à faire. Et il correspond pas tellement à l'image qu'on peut en avoir.
Et donc, dans ce film, il y a aussi, à côté de Michel Sardou, Roland Giraud, donc Patrick Beauchaud, qui est, comme on en parlait, justement, un acteur connu pour sa participation au film de Wim Wenders notamment. Eric Romer aussi. Comment ça se passe le casting? Est-ce que c'est des choix purement de mise en scène, vraiment tes choix à toi, ou est-ce qu'il y a une discussion avec le producteur? Comment la production de ce film s'est faite, en fait?
Allez, faut dire qu'à l'époque, c'était assez facile de monter un film, hein, relativement quand même. C'était en 86, quoi, qu'on avait monté ce film. C'était assez simple, c'était... On choisissait des dates. Enfin, il n'y avait pas toute cette espèce de galère qu'il y a maintenant, de difficulté, de proposer le film aux chaînes de télé, d'attendre la réponse, d'avoir plusieurs coproducteurs. À l'époque, c'était très simple, en fait. Et donc, une fois que la commande était passée, ça se faisait assez vite, et j'ai eu une grande liberté de casting. Ça explique peut-être le côté complètement hétéroclite du casting. Hein. Je prenais qui j'avais envie, que je pensais correspondre au rôle. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des gens du splendide, genre Roland Giraud, Marianne Chazelle, à côté de Sardou, et à côté de Patrick Beauchaud, qui est un acteur de Wenders, comme tu dis. C'était un peu absurde.
Belge de sorte.
Et belge en plus. Donc, non, c'était justement la liberté, quoi. C'était une espèce de facilité à monter les coups qui fait qu'on faisait des choix purement artistiques et sans calcul. voilà, ils sont tellement d'envie de box-office, forcément, quoi.
Pour le désir du film. En
fait. Pour le désir du film, voilà. Moi, j'ai un souvenir qui date, hein, quand même, mais qui était quand même de simplicité de relation et de montage financier. C'était pas trop compliqué, quoi.
Alors, peu de temps après, 3 ans après, ce qui n'est pas énorme, un deuxième long métrage, qui là encore est un film culte aujourd'hui, Mr. Frost, qui a un casting quand même hallucinant.
Oui, là, oui.
Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà quelques mots sur le casting de Mr. Frost?
Alors, Mr. Frost, c'est un film. C'est un film qui parle en deux mots, c'est l'histoire d'un serial killer anglais qui se fait arrêter dans sa maison et on découvre 24 cadavres sous sa pelouse et donc il est envoyé en hôpital psychiatrique et là il se tait pendant 2 ans.
L'hôpital psychiatrique qui était déjà présent dans le premier long métrage aussi.
Hein. Oui, c'est vrai. Après deux ans, il choisit une femme psychiatre et il se décide de lui parler. Et en fait, il lui parle en lui disant qu'il est le diable incarné. Et en fait, cette femme qui trouve l'occasion de sa vie de se faire un nom et d'avoir un patient passionnant comme ça, va peu à peu rentrer dans son délire et se faire bouffer par ce type. Et comme il y avait un aspect nettement fantastique dans le traitement du film, dans la façon de voir les choses, etc., c'est moi qui avais tout de suite dit rapidement au producteur que je ne voyais pas ça tourner en français, je n'arrivais pas à l'imaginer. Je ne voyais pas quel acteur pouvait arriver à faire croire qu'il était le diable en parlant en français. En tout cas, dans mon imaginaire à l'époque, c'était très compliqué. Et donc, j'avais dit, on va essayer de le monter avec des acteurs anglais. Et on a fait un peu mieux que ça, c'est-à-dire qu'on est parti à Los Angeles, on a cherché carrément des acteurs américains et anglais. On a vu des tas d'accords de genre Malcolm McDowell, Michael Caine, des gens comme ça. Et ça s'est arrêté sur Jeff Goldblum, qui sortait de la mouche. Donc, ça devait être 3 ans ou... Oui, 3 ans après La Mouche, donc qui était une énorme vedette à l'époque, et qui a accepté le film parce qu'il adorait le personnage. Et après, c'était assez simple de monter l'affaire, là encore, parce que tout d'un coup, une fois qu'on a Goldblum, on vend le film à l'international, tout se greffe, tous les acteurs ont envie de jouer dedans, forcément, parce qu'ils ont tous envie de jouer avec Goldblum. Et voilà. Et donc, mais ça partait là d'un désir de crédibilité par rapport au sujet. Il faut tourner en anglais, parce que sinon, je ne vois pas très bien comment on va y arriver, quoi.
Alors, tu dis que ça a été relativement simple pour le financement. Néanmoins, c'est une coproduction, d'après mes sources, franco-anglo-américaine.
Ouais.
Un tournage en France.
Ouais.
Et ça n'a pas été facile, d'après tes propres dires, de faire coexister toutes ces nationalités. Enfin, il y a eu des difficultés, en tout cas, d'après ce que j'ai cru comprendre, sur ton blog, toujours.
Oui, c'était compliqué, forcément, parce que d'abord, ça ne se faisait pratiquement pas à l'époque, ces coproductions. Et les Américains avaient une vision du cinéma français, ils l'ont toujours, hein, je pense, qui était très, très marrante, quoi. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on fait vraiment des tout petits films d'auteur dans des cuisines avec 3 personnages et tournés en vidéo. Donc ils étaient déjà vachement épatés qu'on ait des rails de travelling, qu'on ait des grosses caméras, ils étaient tout impressionnés. Et ils s'attendaient quand même qu'on leur livre une série Z d'horreur avec du sang, avec des bon. C'était pas exactement ça quand même, c'était un film plus élégant, plus anglais, plus cérébral que ça. Donc il y a eu des petites difficultés culturelles, je dirais, à mélanger tout ça. Heureusement, on a eu des acteurs comme Goldblum, qui lui adorait le sujet pour ce qu'il était, ou Alan Bates, qui est quand même un grand acteur et qui a donné une crédibilité au projet, qui fait que les gens étaient plus... en tout cas, les coproducteurs étaient plus enclins à dire « Bon, d'accord, on fait un film un peu plus classe qu'on imaginait, mais c'est pas grave. » Voilà. Donc... Oui, les difficultés sont venues du fossé culturel entre nous, quoi, voilà.
Alors, dans Mr. Frost est bien accueilli par la critique, en tout cas, il y a des grands critiques français qui saluent, justement, je pense à quelqu'un comme Gérard Lenne, qui est une référence, qui a écrit un livre notamment sur le cinéma fantastique, qui est un membre éminent du syndicat de la critique, à quelqu'un comme Daniel Scotto aussi, qui disait « Faire peur est un art difficile, jusqu'alors réservé aux anglo-saxons et aux italiens ». Philippe, c'est bon, réussi là où d'autres ont échoué. Donc, en tout cas, salué par les critiques qui apprécient le genre fantastique, mais n'est pas le succès commercial que tu aurais pu espérer.
Non, ça n'a pas été un grand succès. Ça a marchoté sans plus. Là encore, pour une question de ciblage, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas exactement ce que c'était, si c'était un film français, américain. C'était présenté comme un film américain, en fait. Donc c'était un peu surprenant de voir des noms, genre Daniel Gélin, Roland Giraud, des noms comme ça sur une affiche de film américain, c'était extrêmement perturbant. Ce à quoi on n'avait pas réfléchi, nous, on trouvait ça normal, ce mélange. qui est beaucoup plus acceptable aujourd'hui, hein, mais en 90, c'était pas facile à vendre. Et en fait, les gens se sont simplement détournés, je pense, parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Ils savaient pas ce que c'était, si c'était un polar, un film fantastique, un film français, américain, ils savaient pas du tout. Et c'est devenu, par contre, au fil des années, là aussi, un film un peu culte, avec des tas de gens fans qui m'ont abordé en me disant qu'ils adoraient le film, genre Maurice Dantec ou des gens comme ça qui adorent le film. Donc c'est resté, quelque part, une espèce de petite niche comme ça, culte, mais ça n'a pas été un succès commercial.
Sur ce film, est-ce que c'est difficile de diriger des grands comédiens connus? Donc c'est ton deuxième long métrage. Est-ce qu'au contraire, il se comporte tout à fait normalement? Est-ce qu'il y a des exigences propres à leur statut d'acteur de star?
Les exigences, c'est surtout la production qui a à les subir. Hein. C'est les grands hôtels, les caravanes, les voitures qui viennent les chercher, tout ça. Ça, c'est des trucs de production qui, moi, me passent un peu au-dessus de la tête. Par contre, sur le plateau, par exemple, je me souviens de Jeff Goldblum, la première fois, le premier jour de tournage, je suis quasiment bilingue en anglais, mais je ne suis pas américain, donc je ne parle pas exactement l'argot américain parfait. Donc le premier jour de tournage, pour être bien sûr qu'on se comprenait et que j'étais capable de le diriger, il a joué la première prise avec un accent du sud des États-Unis. Donc j'ai bien vu que ce n'était pas normal, donc je suis venu dire « Pourquoi tu joues avec cet accent ?» Là, il m'a dit « Non, pour rien ». Il a fait la suite normalement. C'est juste pour voir si je captais qu'il jouait avec un accent pas normal. À partir du moment où j'ai capté ça, ça va. Il s'est dit « Il comprend à peu près ce que je dis, ça va ». Mais c'était quand même... Et j'ai eu d'autres acteurs qui m'ont fait ce plan-là. Par exemple, sur un autre film, Bruno Kremer, qui m'aimait bien. On était assez copains, etc. Mais il s'est mis à marcher bizarrement dans le premier plan que j'ai tourné. Et je lui ai demandé « Pourquoi tu marches comme ça ?» Il a rigolé. Il voulait juste voir si j'étais attentif et si je faisais pas n'importe quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a cet aspect de bizutage, entre guillemets, qui existe aussi à d'autres postes, des chefs opérateurs ou d'autres qui testent le réalisateur, surtout s'il est jeune, pour voir ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets?
Bien sûr, oui, bien sûr. Sur mes deux premiers films, j'ai eu ce genre de problème. Parce qu'un tournage, c'est aussi beaucoup une prise de pouvoir, une histoire de dominé, dominant, un désir d'avoir un leader qui n'est pas toujours facile à accepter pour tout le monde. Enfin, c'est très difficile à gérer une équipe de tournage. Et a fortiori, quand on démarre, on a un peu tout le monde qui essaye de prendre les rênes, quoi. Acteurs compris, hein. Donc on a intérêt à être bien préparé, à savoir ce qu'on parle, parce que c'est pas simple.
Alors, quand on parle de la direction d'acteur, on va y revenir, hein. Mais il y a une anecdote croustillante, je trouve, sur ton blog, sur une scène avec Alan Bates, qui me fait penser, c'est une private joke que comprendront ceux qui veulent, un acteur donc, qui n'arrive pas à jouer, à faire un jeu blanc. Est-ce que tu peux nous dire...
Oui. Ça, oui, c'était effectivement très intéressant cette anecdote, ça m'est resté d'ailleurs. C'est un jour, on devait tourner un plan avec Alan Bates, qui est donc vraiment un des très grands acteurs anglais de sa génération, hein, comme Richard Harris, Richard Burton, etc. Ça faisait vraiment partie des légendes. D'ailleurs, le premier jour où il arrivait sur le tournage, Goldblum lui a demandé un autographe. Ça donne à peu près le niveau. Et un jour, donc Alan Bates avait un plan assez simple à faire. On lui donnait une cassette vidéo, et dans cette cassette était censé y avoir les meurtres d'un serial killer, des meurtres horribles. Donc on lui donne la cassette dans les mains, et le plan que j'ai tourné, c'était la caméra partait de la cassette et montait en mouvement de grue sur le visage d'Alan Bates en très gros plan. Et il me demande ce qu'il doit faire. Je dis, rien. Je dis, c'est un énorme gros plan, donc la moindre chose que tu fais va être disproportionnée. Donc en fait, tu ne fais rien. Tu penses simplement que tu as quelque chose d'atroce dans les mains, et c'est tout. Et après, la musique fera le reste, le mouvement de caméra fait le reste, et tu n'as besoin de rien faire. On a fait, je crois, une vingtaine de prises. Il n'a jamais réussi à ne rien faire. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas. Il y avait soit la narine qui frémissait, soit le sourcil qui se soulevait, soit la pupille qui se dilatait un peu. Et au résultat, moi qui voyais le film, à l'époque, il n'y avait pas de combo, mais je le voyais à l'œil, je disais, c'est ridicule. Je dis, parce que c'est énorme. On a ça dans l'image, et on voit ton sourcil qui fait comme ça. Et il me dit, mais je ne peux pas rien faire. Je dis, si. Je dis, dans la vie, si tu as un truc horrible, tu ne vas pas faire des grimaces. Et c'est un truc qu'on n'a jamais réussi à avoir. Et ce qui est très marrant, c'est qu'après, avant de partir du tournage, il a demandé à déjeuner avec moi, à Bates. Et il m'a dit qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais autant appris sur le jeu au cinéma que ce jour-là. C'est-à-dire, personne ne lui avait dit, ne fais rien. Et il dit, j'ai énormément appris parce que c'est très... En fait, c'est impossible pour un acteur qui vient du théâtre ou du cinéma anglais, etc., de ne rien faire.
Justement, quand c'est la dernière prise, comment c'est terminé? Tu as obtenu ce que tu voulais
non.
à la dernière prise ou pas?
Non, non, on l'a jamais eu. C'est juste qu'on a coupé le plan assez vite pour pas qu'on ait le temps de voir qu'il frémissait de la narine ou qu'il avait le front qui bougeait un peu. Donc on a coupé juste comme il fallait, mais on l'a jamais eu ce truc. C'est très intéressant parce qu'un acteur comme Jeff Goldblum, par exemple, qui est l'école acteur studio américain, le fait tout à fait naturellement, ça. Il sait très très bien qu'il a besoin de rien faire. Il connaît la caméra, il connaît les objectifs, il sait ce que ça rend. Donc il sait très très bien que s'il bouge, ne serait-ce qu'un bout de joue, ça va prendre des proportions colossales sur un écran de 10 mètres. Donc il fait rien. Et c'est un jeu qu'ils ont. Alors que les acteurs britanniques, qui sont des acteurs venus du théâtre, qui ont une formation théâtrale, ne conçoivent pas d'exprimer les sentiments sans bouger, sans exprimer, sans mimer. Enfin voilà, c'était assez passionnant comme synthèse.
Alors, on parlait aussi, avant de venir ici en déjeunant ensemble, de la question des compromis à faire sur un plateau. Là, par exemple, à quel moment tu décides de, voilà, tu as fait 30 prises, je ne vais pas en refaire 10 autres, parce que le temps tourne. Donc, comment on décide jusqu'où on peut aller avec un comédien avant de passer au plan suivant, jusqu'où il faut tenter une nouvelle prise pour si on n'a pas obtenu exactement ce qu'on voulait?
Ça dépend des réalisateurs. Hein. Je pense qu'il y a des réalisateurs qui peuvent aller jusqu'à 100 prises, jusqu'à ce que le type éclate en sanglots et s'écroule, comme faisait Kubrick, par exemple. Moi, sur Mr. Frost, j'ai travaillé avec le monteur de Stanley Kubrick, qui était Ray Lovejoy, qui a monté Shining, qui a monté 2001, etc. Donc j'avais ce monteur-là, ce qui était pour moi extraordinaire. Donc je passais mon temps à discuter avec lui, etc. Et il m'expliquait que Kubrick tournait jusqu'à 80 prises, ou même des fois plus, s'il n'avait pas ce qu'il voulait, et que les acteurs pleuraient, rentraient à l'hôtel en chialant, ne dormaient pas de la nuit, etc., ils s'en foutaient complètement, qu'ils faisaient tout tirer, et que le lendemain, ils visionnaient toutes les prises, plusieurs fois. Donc c'était de l'obsession. Bon, alors, il a les moyens, il a le temps, il se produit lui-même, tout ça. Donc à quel moment on lâche, quand on fait un film normal et qu'on n'est pas Stanley Kubrick, c'est au moment où on se dit, si on continue, on va rentrer en situation de crise. C'est-à-dire qu'on va se mettre l'acteur à dos, on va dépasser de 2 heures, on n'arrivera pas à voir le jour pour le plan suivant. C'est une espèce de mélange de compromis, de calcul, de...
Est-ce que l'assistant réalisateur a un rôle, par exemple, là-dedans, ou pas du tout? Est-ce qu'instantanément, l'assistant vient te voir
Oui, oui, il peut venir me dire, si on n'arrête pas maintenant, on ne va pas y arriver. Oui. Après, c'est à moi de dire, je m'en fous, je ne veux pas y arriver, on y arrivera quand même, et à ce moment-là, on rentre dans les situations de crise. Bon, moi, il se trouve que d'abord, j'aime pas ça, je trouve pas ça super productif. Et malgré tout, c'était pas suffisamment grave, par exemple, là, en l'occurrence, cette anecdote, pour aller à la crise. Donc, c'est un truc où on lâche. Il y a des fois, il faut pas lâcher. Parce que
si tu veux donner un exemple, sans citer des noms, forcément, mais un exemple sur un plateau, tu n'as pas lâché parce que tu pensais qu'il fallait continuer, persévérer jusqu'au moment où tu obtenais ce que tu désirais. On risque de rentrer dans la crise.
Non, j'ai pas de souvenir où j'ai poussé au clash, non. Non, les fois où j'ai pu pousser au clash, c'était avec des techniciens plutôt. C'est-à-dire exiger quelque chose où ils me disaient c'est pas possible. Quand je demande à un chef-op de me faire un contre-jour, là par exemple, il me dit non, c'est pas possible. Là, je lâche pas, par exemple. Ça, c'est des choses qu'a pas le droit de dire un chef-op, par exemple, c'est pas possible. Ça, c'est des choses qu'il faut pas lâcher. Avec les acteurs, c'est très différent parce que si on est par exemple à 2 premières semaines de tournage et qu'on compromet la relation avec un acteur, ça va durer jusqu'à la fin, et ça ne peut qu'empirer. Donc, c'est sans arrêt du calibrage, de la retouche, du compromis, mais du compromis intelligent. Il ne faut pas abîmer son film pour autant, mais savoir ce qu'on peut lâcher pour préserver d'autres choses. Voilà, en gros.
Alors, je propose qu'on fasse un premier tour de table parmi les étudiants pour essayer des questions, parce que là, on a parlé de manière assez large des questions scénario, réalisation, de tes 2 premiers longs-métrages. On va passer à un autre chapitre qui est les téléfilms, les séries et jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être que déjà dans tout ce qui a été dit, il y a des envies de questions. Oui.
C'est vrai que la BD, ça apprend l'ellipse énormément. C'est-à-dire, puisqu'en une image, on doit à peu près traduire ce qu'on veut. Ça, c'est pareil pour le scénario audiovisuel, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à commencer une scène au bon endroit, pas la peine d'introduction, on arrive à rentrer dans le gras, dans le cœur d'une scène tout de suite. Ça, c'est un truc qui m'est venu de la bande dessinée, certainement. Et pour ce qui est du storyboard, moi, j'en fais rarement, mais je le fais pour les scènes d'action, beaucoup. Parce que là, c'est quand même assez technique, et il faut être sûr qu'il ne nous manquera pas un plan. pour bien qu'on comprenne, c'est-à-dire surtout pour la géographie des lieux, avoir toujours un personnage et l'autre dans le champ pour savoir où ils sont l'un par rapport à l'autre, ce genre de choses-là auxquelles on ne pense pas forcément quand on tourne naturellement. Ça, je le fais en storyboard pour être sûr d'avoir toutes les composantes géographiques. Ça, c'est du dessin, ouais. Déjà, le mouvement. C'est-à-dire, ça, c'est bête de dire ça. Non, non, mais c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en BD, on va faire deux cases avec des cadrages bien précis et bien dramatiques, bien exagérés. C'est-à-dire qu'une main en premier plan avec au fond l'autre personnage, tout ça. Et pour rendre ça en cinéma, ce même effet, c'est pas obligé de cadrer pareil. Surtout pas cadrer pareil qu'en BD. Il faut traduire ça par un mouvement de caméra. C'est-à-dire, je dis n'importe où dans cet exemple-là, partir de la main et élargir le plan dans un mouvement de grue pour découvrir. Voilà. Donc c'est une chose que c'est pas le même langage. Faut penser que l'un est immobile et l'autre bouge. L'autre a la capacité de bouger. Donc ça, c'est ça le rapport. Faut pas essayer de reproduire. Moi non, parce qu'il se trouve que je suis auteur et réalisateur même en télé. Donc j'envisage tous mes films à peu près de la même manière. Après, je vous dirais que la vraie différence, elle vient des moyens, quoi. Tout simplement, c'est-à-dire qu'en cinéma, si on a 5 heures pour réaliser un beau plan, on a une demi-heure pour le faire en télé. Donc là aussi, il faut savoir réduire sa mise en scène et la concentrer pour avoir un effet équivalent en beaucoup moins chiadé et en beaucoup moins précis. Donc c'est... Mais autrement, non, visuellement, je vois les choses de la même façon, je filme de la même manière, j'espère d'avoir le même rendu, mais c'est le temps. C'est le temps.
Ouais. On va revenir à ces questions de télé. On va largement développer hein, la question des téléfilms et des séries aussi. Mais Colin.
Une chaîne, non. Là, en l'occurrence, là, c'était le producteur du film qui m'a proposé le roman de Maurice Renard, Les mains de Roxana, là. Et on est allé proposer un synopsis. C'est-à-dire, comme c'était tellement adapté, on ne pouvait pas simplement faire lire le
roman. C'est peut-être un avantage de la télé par rapport au cinéma, par contre.
Oui, absolument. Et on est allé avec... Oh, pardon, excuse-moi. On est allé avec un pitch d'adaptation qui était vraiment tellement différent du roman qu'il fallait absolument repartir de zéro. Et ce pitch est accepté ou pas par la chaîne. Là, en l'occurrence, il a été accepté. Retravaillé en fonction de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, ou ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas pour leur case. Et de là, on fait un traitement. Un traitement qui fait une vingtaine, une trentaine de pages pour un long métrage, enfin pour une heure et demie, où il y a l'essentiel des séquences. Moi, par exemple, certains font ce qu'on appelle un séquencier. Moi, je n'en fais jamais parce que je trouve ça c'est un peu une hérésie. Donc, je fais simplement un traitement.
Pourquoi une hérésie ?
Parce qu'au fond, un séquencier, c'est guère qu'un scénario sans les dialogues. Ça se traduit souvent par décrire les dialogues, c'est-à-dire il lui répond qu'il n'est pas d'accord, l'autre lui dit qu'à ce moment-là, autant faire le dialogue, quoi. Donc voilà. Donc, moi, je préfère faire un traitement plus littéraire, comme une espèce de nouvelle, mais où, par contre, il y a toute la découpe séquence par séquence, où on se rend compte exactement des décors.
Le récit dans leur chronologie.
Tout. Il y a tout dedans, tous les décors. Comme ça, même à la limite, quand il y a des urgences de production, on peut même presque préparer avec ça. On commençait à faire les repérages, etc., uniquement avec le traitement. Donc ça, c'est sur ce traitement qu'il y a pas mal de travail en général avec la chaîne, qui demande beaucoup de changements, beaucoup de modifications, etc. Et si on s'est bien arrangé avec eux et qu'on s'est mis d'accord, après le scénario, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on a à peu près éliminé tous les problèmes.
Donc tu sais que c'est un avantage de la télévision sur le cinéma en France, parce qu'il est très rare qu'une chaîne de télévision rentre sur un pitch ou sur un traitement en long métrage, en préfinancement de long métrage. C'est plus la continuité de dialogue
qui
joue.
Oui, puisqu'en cinéma, c'est plutôt le producteur qui investit dans l'écriture et dans le projet, et qui ensuite va le soumettre à des distributeurs, à des chaînes de télé, etc. Donc c'est effectivement le matériau brut, c'est le scénario. Là, pas du tout, c'est l'idée. En télé, c'est le pitch qui compte. Le projet, quoi.
Alors, on rentre dans le parcours chronologique, et il y a un film sur lequel j'ai trouvé très peu de renseignements, qui est Ricky.
Ouais.
Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, avec Guillaume Depardieu.
Ouais. Ben, Ricky, c'est...
Son premier téléfilm, la réalisation, en 1996.
Non.
Ah, c'est une source Wikipédia.
Non, 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 il y en a eu d'autres. Ah Wikipédia
bon
ment. Non, il y en a d'autres. Mais non, non, Ricky, c'était intéressant
quoi,
parce que...
C'est quoi le premier téléfilm
Je crois que ça s'appelait Tango Bar, avec Kremer, je crois. Et Ricky, c'était un road movie qui devait se faire au cinéma normalement au début. Et qui, parce que c'était trop long à monter et que moi, j'ai plus pas tellement de patience, à un moment, j'ai eu une opportunité de le faire en télé, en Suisse, en coproduction suisse, et avec un casting très intéressant qui était Guillaume Depardieu, Jean-François Stévenin, Elisabeth Vitali, Jean-Luc Bidault. Enfin, il y avait vraiment un très beau casting. Et c'est un film qui est pour moi important parce que j'avais fait le pari, on était en 95 peut-être, 95. Donc il n'y avait pas de caméra HD, on tournait en 16, hein, en Super 16, de le tourner sans lumière et sans travelling. Ça veut dire tous les extérieurs, tous les intérieurs avaient été calculés en repérage, donc près de fenêtres, dans des endroits très éclairés, etc., avec la pellicule ultra sensible, et pas de travelling. On était tout à l'épaule, il n'y avait pas non plus Steadicam, je crois, à l'époque très facilement abordable, donc on avait tout à l'épaule, ou sur des chaises roulantes, ou des choses, enfin, on avait tout fait la démerde comme ça. On a réussi, et ce qui est incroyable, c'est que ça ne se voit pas. C'est-à-dire, dans le film, on ne voit pas du tout que c'est à l'arrache. Et ça, c'était quand même une belle victoire, parce que... Et moi, j'étais naïvement, à l'époque, j'étais persuadé que ça ferait école, et pas du tout. Alors qu'on l'a fait pour beaucoup moins cher que d'habitude, et beaucoup plus libre, au point que quand on allait à la cantine, par exemple, pour tourner dans des restaurants, on occupait deux tables, on était 10 en tout, toute l'équipe. On était 10 ou 11. Selon le nombre d'acteurs qu'il y avait. Donc c'était assez extraordinaire quand même, c'était vraiment presque du reportage, alors que c'était de la pure fiction, hein. C'était vraiment... Ça c'était une belle expérience pour ça, entre autres. C'est ça que je me souviens, plus évidemment le Guillaume Depardieu, qui avait 24 ans à l'époque et qui jouait pratiquement son propre rôle, c'est-à-dire qu'il était un môme, c'était pas écrit pour lui, hein, mais c'est tombé par hasard, un môme qui avait des gros problèmes avec son père, qui voulait tuer son père en réalité, et qui rencontrait quelqu'un sur la route, et qui devenait ami, qui devenait un substitut de père, etc. Et donc c'était marrant de filmer une espèce de bête de cinéma comme ça, qui était avec des répliques et des situations tellement proches de sa personnalité, quoi. C'était assez troublant.
Alors, même cas de figure, enfin, tout autre scénario, mais même cas de figure pour la petite équipe, c'est Chute.
Ah, Chute, c'est...
C-H-U-T, donc.
Ouais.
Donc là aussi, une toute petite équipe.
Encore plus drastique. Là, on devait être 8 ou 9. Et décor unique. Voilà. Décor unique, un appartement. Et c'était un film, pas d'horreur, mais un film de trouille, dans un seul décor, qui était basé sur une idée toute simple. C'était qu'un jeune couple s'installe dans un appartement énorme. Et la femme est persuadée de voir un animal chez elle. Une espèce de bête que nous, on ne voit jamais. On l'entend courir, on entend des bruits, mais on ne la voit pas. Et le mari ne la croit pas. Et c'est à partir de là qu'on voit le couple partir en morceaux et s'effilocher complètement, alors que c'est un des jeunes mariés et que tout va bien. C'est simplement parce qu'il ne la croit pas que tout part en morceaux. Et ça, c'était intéressant, parce que d'abord, là encore, j'avais un très beau casting. J'avais Sophie Guillemin qui jouait le rôle de la fille. J'ai eu des gens comme Olivier Marchal, François Morel.
Pas aussi connu Olivier Marchal qu'il ne l'est aujourd'hui.
Je crois qu'à l'époque, il sortait son premier film. Et donc, il y avait Morel, il y avait Sacha Bourdeau. Enfin, c'était encore un beau casting. Et tout huis clos, tourné en DV. Voilà, c'est des expériences que moi j'aime bien quand c'est extrêmement limite, quoi, comme ça. C'est jusqu'où on peut tirer sur la corde jusqu'à quand on peut faire encore un bon film. C'est-à-dire, jusqu'à un moment, la technique.
Alors, qu'est-ce qu'un bon film ?
Qui ressemble à un vrai film, déjà. Ouais. Qui ne fasse pas amateur. Après, c'est du jugement de qualité. C'est est-ce que ce film est bon, intéressant ou pas, c'est autre chose. Mais qu'un film ressemble à un film. Moi, ça m'intéresse d'explorer les limites, jusqu'où on peut abandonner des choses techniques, renoncer à des choses techniques, et que ça ressemble encore à un film professionnel. Voilà, ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et sur Chute, on était allé à l'extrême limite, quoi. C'était un peu plus, et ça faisait court-métrage d'amateur. Donc voilà, c'était une expérience marrante aussi pour ça.
Je passe la parole, Colline, mais juste une question sur Chute. J'ai lu que c'était au départ un film prévu pour le cinéma.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il est passé de statut de film cinéma à une diffusion TPS ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Là, ce n'est pas de mon fait. Je crois qu'à l'époque, la production avait signé avec TPS, je crois, pour faire des 6 films qui sortaient d'abord en salle et ensuite passaient à la télé. Et cette partie du contrat n'a pas été suivie, donc c'est passé simplement à la télé. Mais quand on l'a tourné, c'était censé sortir en salle. Mais je ne me souviens plus des détails, mais je sais que ça avait été abandonné en route. Ce que je cherche réellement, en fait, c'est une très bonne question parce que je me le demande des fois, c'est retrouver la liberté et l'immédiateté que j'ai quand j'écris. C'est-à-dire, j'ai une idée, je la mets immédiatement sur... je la concrétise instantanément.
Comme écrivain, pour le coup.
Comme écrivain ou même comme scénariste. Oui. C'est vrai que ça va très vite d'écrire, et c'est du cerveau à la main, ça va très vite. Et sur un tournage, si on est empêtré dans la technique, si on est empêtré dans la logistique, on perd énormément de ces choses-là. Et ça devient vite empesé, ça devient vite difficile, et ça devient vite classique, quoi, traditionnel. C'est pour ça que j'aime bien pousser. Par exemple, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis un seul rail de travelling sur mes tournages, et ça ne se voit pas dans les films. Parce que je sélectionne des très bons steadicamers à qui je demande de faire des travelling sur rail sans rail. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça fasse steadicam, je veux que ça fasse rail. À part que ça va 5 fois plus vite.
Et vous ne fonctionnez pas avec des mécaniques, des répétitions?
Ah si. Je répète beaucoup, je fais peu de prises. Et surtout, je prépare énormément. Je prépare beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait des repérages, j'amène une petite caméra avec, et c'est mes assistants qui jouent les rôles des acteurs, et on fait les mouvements pour ensuite sélectionner l'axe exact qu'on aura sur le tournage, qui est d'ailleurs toujours respecté. Hein. Quand on tourne, on retrouve exactement les mêmes marques qu'on a eues en repérage. Et à partir de là, tout va beaucoup plus vite, parce que on rentre dans la pure technique de tournage. Hein. Mais quand on arrive le matin, par exemple, moi, j'arrive avant tout le monde avec ma script et mon chef-op, et on fait le découpage de la journée. Mais ce n'est pas la peine de retourner sur les lieux, puisqu'on les a déjà vus ensemble en repérage. Donc, il suffit de faire des axes, des dessins, et tout va très, très vite, puisque quand on est prêt à tourner sur un décor, on peut envoyer les électros éclairer le suivant, déjà. Je n'ai pas à réfléchir, à me dire comment on va faire pour la suite, etc. Donc, tout ça, outre le fait que ça amène de la liberté énorme, ça permet de lutter contre la misère des budgets de télé aussi, où on a le temps de rien. Donc, en se recréant du temps, on arrive à retrouver les possibilités de faire de la qualité et de soigner ce qu'on fait, quoi.
Vous dites gagner de la liberté, c'est-à-dire vous permettez de changer les dialogues,
De répéter beaucoup, d'écouter les propositions des comédiens, d'essayer des choses.
Est-ce que les plans ne changent jamais en fonction du jeu des comédiens? Des mouvements, par exemple, des comédiens les uns par rapport aux autres?
C'est-à-dire, en général, depuis quelque temps, j'essaye de commencer la scène en demandant aux acteurs de jouer tel qu'ils le voient, eux. Je les mets dans le décor et je leur dis « montrez-moi ce que vous avez envie de faire » avant que moi je leur dise « je vais faire un plan large, des gros plans, etc. » « Montrez-moi ce que vous voulez faire. » Et très souvent, quand je dis très souvent, c'est 85% des fois, ils refont ce que j'avais imaginé qu'ils feraient parce qu'il y a une logique dans un décor qui fait qu'il n'y a pas 36 000 solutions quand même, quoi. Et une fois qu'ils ont, eux, répété leur truc, comme ça vient d'eux, ils ne se sentent jamais obligés ou forcés. Et donc après, tout va très bien. Ils se plient à tous les problèmes techniques. Quand on leur demande de se déplacer, de jouer avec la tête un peu comme ça pour être dans la lumière, ils râlent moins parce que c'est quand même leur choix à la base. Et donc c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Mais...
Donc il peut y avoir des adaptations sur le découpage tel qu'il avait été prévu au départ.
Il n'est pas prévu, mon découpage. C'est-à-dire, en fait, je prévois les axes. Ouais. Et ce que je veux traduire dans cette scène, c'est-à-dire la peur, la tristesse, l'angoisse, ça, je sais à peu près comment avec quel objectif le faire, à quelle hauteur de caméra. Ça, c'est une chose qui ne concerne pas les acteurs, mais une fois qu'ils sont là, après, je leur laisse une possibilité de se mettre en scène. Voilà.
Alors, je reviens sur cette idée qui avait été posée par une des étudiantes sur la distinction entre cinéma et téléfilm. Tu as déjà en partie répondu, bien sûr, mais en termes de production, est-ce qu'il y a des différences dans les rapports avec les producteurs, puisque eux-mêmes sont dans une dépendance vis-à-vis des chaînes de télévision, puisque qui dit téléfilm dit que ce sont des films d'abord pour la télévision. Mmh. Donc est-ce que ça change le rapport réalisateur-producteur et civil dans quelle proportion? Est-ce que entre le moment où tu as commencé aujourd'hui, il y a une évolution aussi, positive ou négative, ou les deux, du rapport producteur, diffuseur, réalisateur?
Oui, il y a une grande différence, parce que les producteurs dépendent maintenant intégralement des chaînes de télé. Il y a depuis quelques années, depuis pas mal de temps maintenant, ce qu'ils appellent les chargés de programme, c'est-à-dire des gens dans les chaînes qui sont chargés de suivre un projet depuis la genèse jusqu'à la réception du film final. Et donc, qui ont une direction artistique importante sur le film. Donc, ça ne vient plus des producteurs maintenant. Les producteurs se suivent, résistent, parfois, ou pas, suivent, mais en tout cas, sans l'aval et sans la validation des chargés de programme de la chaîne, le film ne se fait pas on n'avance pas. Donc en fait, il y a deux interlocuteurs pour un réalisateur ou un auteur, c'est le chargé de programme en un, je dirais, et le producteur en deux, alors qu'au départ, c'était le producteur qui a initié le projet, mais après, ce pouvoir-là se divise en deux.
Et donc, est-ce que ça a des incidences concrètes sur les choix artistiques du projet? Donc on a parlé du scénario, mais on peut aussi parler du montage. Est-ce que les chargés de programme viennent au montage? Est-ce
qu'ils sont
très intervenants? Est-ce que, évidemment, ça peut changer d'un film à l'autre, d'un chargé de programme à l'autre, mais globalement, comment ça se passe, cette relation
au montage? Au montage, c'est pas si compliqué qu'on pourrait le croire. Ils demandent des changements, ils demandent des retouches, des modifs, mais simplement, et là encore, j'en reviens à la réalité économique d'un téléfilm, on a tellement peu de temps pour tourner qu'on n'a pas énormément de matériel. C'est-à-dire que sur un film d'une heure et demie, en premier montage, on a de la chance si on fait 1h35. Donc on n'a guère que 5 minutes de marge qu'on peut couper. Donc les coupes qu'on nous demande, souvent, ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas 10 000 choix, quoi. Sinon, on se finit avec un film d'une heure dix et ce n'est pas jouable. Donc après, ça joue sur l'humour d'une situation, sur des choses qui passent ou qui ne passent pas, sur des petits compromis comme ça, par-ci, par-là. C'est rare qu'ils arrivent à défigurer complètement un film au montage ou qu'on se sente dépossédé. Ça m'est arrivé une fois, c'était pas très plaisant. Mais parce que, comme par hasard, c'est un film que j'avais fait encore une fois, j'avais poussé un peu trop loin l'expérimentation. C'est-à-dire j'avais fait un film à 3 caméras en même temps pour voir si on y arrivait. J'y suis arrivé. Mais le manque de bol, c'est que là, on a beaucoup de matériel, là, pour le coup. On a plein de matériel. Et donc, on a encore plein de façons de changer le montage. Et là, c'est un problème parce que là, on peut le changer. Donc, si on peut, on fait. D'où problème. Donc, c'est moi, je ne le referai plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais trouvé une technique avec un chef-op, c'était d'arriver à faire le plan large et les gros plans en même temps, sans que ça, l'image en pâtisse. Donc, ça va évidemment 3 fois plus vite, plutôt que de déplacer la caméra unique à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a plein de matériel. Et comme on changeait les positions de caméra entre chaque prise, on avait encore plus de matériel. Comme c'est un jeu, c'est une ivresse, on finissait avec des tonnes de matériel, donc souci au montage. Voilà.
Et donc le diffuseur, dans ce cas-là, a pu vouloir changer le montage tel qu'il était, tel que tu l'aurais voulu, toi, en fait.
Oui, puisque par exemple, quand il disait, si je donne un exemple, il disait par exemple, là, j'aurais aimé qu'il dise cette réplique en gros plan, et bien, je l'avais, le gros plan. Je ne l'avais pas mis parce qu'il ne m'intéressait pas, moi, mais je l'avais. Donc, problème, alors que c'est plus simple de dire à quelqu'un, désolé, je ne l'ai pas tourné. Là, je l'avais tourné. Donc, après, ça devient beaucoup moins subjectif, le montage d'un film. Chacun a son opinion, chacun a ses envies. Alors que quand on a le matériel qu'on a, il n'y a pas 36 choix. La base de tout, c'est le scénario. C'est-à-dire que leur rôle, surtout. Parce que les acteurs, pour les trois quarts, ne lisent que leur rôle. Enfin, ne lisent vraiment que leur rôle. Et c'est ce qu'ils ont envie à ce moment-là de leur vie qui les intéresse. C'est-à-dire que si on propose un rôle qu'ils ont déjà joué il n'y a pas longtemps, ils ne feront pas le film. Si justement ils ont envie de jouer ce genre de film, ils le prendront même s'il y a des imperfections, même s'ils considèrent qu'il y a des imperfections, ils le feront quand même, parce qu'ils ont besoin d'exprimer ça à ce moment-là. Et oui, moi je leur donne le scénario, on discute, ça accroche ou pas. Après, il faut quand même qu'il y ait une vraie accroche de sympathie personnelle, parce qu'on passe minimum 6 semaines ensemble, collés, tout le temps. Qu'on dépend l'un de l'autre, c'est-à-dire mon film sera bon si mon acteur est bon, et l'acteur doit savoir qu'il sera mis en valeur et pas gaspillé ou pas moché quand on le filme. Donc il y a toute une relation qu'il faut créer.
Rapport de confiance.
Rapport de confiance, mais qui n'est pas uniquement professionnel. C'est des rapports d'humour, de voir si on rigole des mêmes choses, si on a vu les mêmes films, voilà, il y a tout un truc de...
Si c'est pas le cas, alors?
Ben, s'il n'y a pas le cas...
S'il n'y a pas d'univers commun et que l'acteur est très...
En général, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, en général, l'agent appelle 3 jours après en disant « Désolé, il a déjà signé pour un autre film. » Voilà, ça se règle gentiment comme ça. Quand il n'y a pas les atomes crochus, il ne faut pas de regrets parce que c'est des trucs qui... Ça m'est arrivé de prendre des acteurs à qui je n'en avais pas et ça tourne au vinaigre très vite parce que c'est vrai que si on n'a pas ce minimum d'atomes crochus, on se retrouve vraiment... À habiter avec quelqu'un, quoi. On dîne, on déjeune avec, on est tout le temps avec. Si ça ne marche pas...
Alors, justement, vous dites que vous montrez comment le personnage est mis en valeur, mais si c'est l'histoire de quelqu'un d'une gueule cassée, voilà, comment...
Ben, je reviens à ce que je vous dis. Peut-être qu'à ce moment-là de sa vie, cet acteur a envie de jouer une gueule cassée. C'est-à-dire que ça dépend de quel moment. C'est vraiment... ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est, si cet acteur vient de jouer un rôle de Bellâtre qui séduit toutes les femmes et qu'il a fini le tournage il y a 2 semaines, son envie, ça va être de jouer un type complètement dégénéré, à moitié fou, etc. Et si vous lui proposez ce rôle-là à ce moment-là, génial. Voilà, c'est tout.
Pendant ces
6 semaines,
en fait, quoi.
Et... on cohabite, comme...
Non, mais c'est...
Ouais. Vous
baladez, vous allez au cinéma
ensemble, est-ce que vous faites
des études?
Ah non, avant, c'est jamais. Non, non, je parlais des 6 semaines pendant le tournage. La confiance, elle se fait réellement, hein, dans le concret, elle se fait très vite, parce qu'on n'a pas le temps, en général, de se voir beaucoup. C'est-à-dire qu'au moment où on choisit l'acteur principal, où il dit oui, nous, on est déjà en repérage. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur la route, on est tout le temps avec les techniciens en train de régler les histoires de découpage et de machin. Donc on n'a pas le temps de passer beaucoup de temps avec eux, pendant qu'eux vont aux essayages costumes, aux essayages coiffure, gna gna, on les revoit le soir, on dîne en regardant les photos, les bouts de films. Donc c'est un truc, on rentre très vite dans l'action et le concret, en fait. C'est pour ça que cette première rencontre, elle est absolument cruciale. Il faut vraiment être lucide, de se dire, est-ce que je vais m'entendre avec cette personne? Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec elle? Parce que ça se fait en 2 heures. Hein, c'est, enfin moi, en tout cas, toutes les expériences que j'ai eues, ça s'est fait comme ça, très vite.
À partir du moment où il y a rencontre, c'est déjà que le comédien a lu le scénario, normalement.
Normalement, oui. Ah, donc déjà, il y a ça. Il y a ce scénario qu'il a envie de faire ou pas. Donc s'il a envie, on se rencontre.
Il peut y avoir un refus sur scénario aussi.
Et ça, on ne se rencontre pas, là.
Et donc il n'y a pas de rencontre.
Là, il n'y a pas de rencontre.
Mais quand il y a rencontre, il y a encore quelque chose qui se joue vraiment au moment de la rencontre.
Bah, par exemple, Sylvie Testu, je crois, si j'ai bien compris ce qui s'était passé, elle ne voulait pas tourner de téléfilm. Et quand elle a reçu le scénario, je crois que son agent ne lui avait pas dit que c'était un téléfilm. Donc elle a lu, elle a trouvé ça super, elle a dit « je veux le rencontrer très vite », elle était OK, on s'est vu. Et c'est en parlant que tout d'un coup je lui dis « et c'est un film pour France 2 ». Et là elle m'a dit « ah bon, c'est pas un long métrage ?» Donc, petit malaise quand même, je lui dis « non, c'est un téléfilm ». Elle me dit « mais moi je fais pas de téléfilm ». Donc petit grand silence, moment de solitude totale, et elle a commencé à dire « oui, mais quand même le rôle est génial, et puis bon, puis on s'entend bien, et machin, et voilà ». Et à partir de là, ce contact s'étant fait, on a passé ce cap-là. Alors que je pense que ton agent lui aurait dit « tiens, je t'envoie un scénario de téléfilm », il n'aurait même pas lu.
Justement, est-ce que le rôle des agents est important, ou peut l'être ?
À ce stade-là, oui. Ce stade-là, oui, ça peut faire barrage, ça peut dire « elle n'a pas envie de faire ça en ce moment » ou « je n'ai pas envie qu'elle tourne ce genre de choses en ce moment ». Voilà, c'est à ce moment-là que ça peut être emmerdant. Ouais. Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non, ça dépend du stade d'avancement du projet. Parce que, pour prendre un exemple que je donnerai le moins précis possible, il y a quelques temps, on m'a imposé un acteur dont je ne voulais pas au départ. Et on était à 5 jours du tournage, rôle principal. Hein. Donc ma première réaction, ça a été de dire non, c'est pas le rôle, j'en veux pas. Par contre, si je disais j'arrête le film, je mettais 45 personnes au chômage, quoi. C'est-à-dire toute l'équipe, tous les partenaires qui avaient signé les rôles, tout le monde. Parce que la chaîne avait dit d'accord, si tu ne veux pas le prendre, on repousse le film de 8 mois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Le producteur a déjà dépensé de l'argent, il me dit « ah non, tu ne vas pas faire ça, c'est pas possible », etc. Tous les autres acteurs en attendent que ça, tout le monde a fait ses essayages costumes. Ben, on dit oui. Des fois, on a tort.
Tu le regrettes aujourd'hui? J'étais à refaire dans ce cas précis.
Je regrette, je ne sais pas ce que je ferais, parce qu'on a toujours ce poids sur les épaules. Il n'y a pas que la beauté de l'art, quoi. Il y a aussi de se dire...
C'est pas ça l'une des définitions du métier de réalisateur, c'est de savoir quand on peut dire oui et quand on peut dire non, quel compromis on peut faire ou pas.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Est-ce que c'est quelque chose qui arrive plus souvent en télé que au cinéma?
Oui, oui, oui. En télé, beaucoup, parce que... D'abord, bon, ça dépend aussi des télés, des chaînes, etc. Hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes télé qui imposent des gens qui souvent ne sont pas des acteurs, ou c'est souvent des présentateurs, ou des chanteurs, ou des choses comme ça. Bon, ça, je ne l'ai jamais fait, heureusement. Mais ils le prennent pour des raisons de représentation de chaîne. Par exemple, tel présentateur, ils le mettent en vedette d'une série parce que ça représente l'image de la chaîne, etc. Bon, ça, je n'ai pas encore fait. J'espère que je ne le ferai pas. Mais ça, c'est d'énormes compromis. Je ne sais pas comment c'est jouable, franchement. J'espère que je n'aurai jamais à faire ce choix-là parce que c'est... Non, oui, j'ai des petits noyaux que je retrouve, mais comme je tourne pas très souvent, en fait, j'écris beaucoup de scénarios, mais je tourne pas énormément. Je tourne un film tous les 2 ou 3 ans. Souvent, mes équipes sont pas libres ou ils sont passés à autre chose, donc ça m'arrive souvent de renouveler, ce qui est pas mal en fait, parce que ça évite le ronron et le trop grand confort, etc. Donc ça, j'aime bien. En général, j'essaye de m'accrocher à des chefs-op, à des directeurs photos, parce que ça, c'est vraiment le. Je dirais la continuation de soi-même, quoi. Ça veut dire visualiser ses idées, c'est un peu particulier. Si on a trouvé un ou deux qui arrivent à visualiser ce qu'on demande, on le garde parce que c'est pas si courant que ça quand même. Qui arrivent à exprimer leur talent à travers ce que vous leur demandez, c'est-à-dire que ça veut dire faire taire son ego, trouver de l'artistique dans un truc qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes forcément. Enfin, voilà. Donc le chef-op, c'est important. Pour le reste de l'équipe, moi j'aime bien bouger. Ouais.
Alors on va approfondir ces questions aussi, si tu es d'accord, sur la question de la production notamment. Je voudrais faire une petite insiste sur Alain Delon, parce que, je te cite, vous avez fait 16 films ensemble, ce qui n'est pas rien, mais jamais à la réalisation, toujours au scénario. Et donc, ça pose la question justement de comment on fait le scénario. Est-ce que c'est une commande d'un producteur? Est-ce que parfois tu as été sollicité, je sais que c'est le cas, par Alain Delon lui-même, donc qui a souhaité que ce soit toi qui travaille sur un projet? Donc, est-ce qu'on pourrait à la fois parler de ce rapport et comment il est né entre toi et Alain Delon, toi scénariste, pour des films dans lesquels Alain Delon a joué, et plus largement ce rapport de scénariste et c'est comment est-ce qu'on peut vivre une commande, éventuellement la transgresser, y prendre un plaisir de création? Beaucoup de questions.
Alors la relation avec Delon, elle est particulière parce que en fait, il a tourné mon premier scénario. C'est-à-dire, c'est un truc qui s'appelait Parole de flic. J'avais écrit, je devais avoir 25 ans ou 24 ans. Et Delon avait, c'était pas écrit pour lui au départ, c'était une commande de producteur, Alain Sard. Et Delon avait tellement aimé le truc qu'il l'a racheté, il l'a produit, il a joué dedans. Et c'était vraiment la première fois qu'il y avait mon nom sur un générique. Hein. Et donc, il m'avait fait un cadeau incroyable. Mon nom apparaissait en premier, avant lui. Il y avait marqué scénario, Philippe Sedbon, en énorme sur l'écran comme ça. J'avais 25 balais, j'étais halluciné. On s'était revus un peu après, mais pas très longtemps. Il voulait que je réalise un film avec lui, mais le projet s'est pas fait. Et après, on s'est plus vu pendant 20 ans. Perdu de vue complet. Et un jour, je reçois un coup de fil du producteur GMT, Jean-Pierre Guérin, qui me propose l'adaptation de Fabio Montale, les romans de Jean-Claude Izzo, parce que Delon avait dit qu'il le faisait si c'est moi qui l'écrivais. C'est quand même étonnant parce que vraiment, je ne lui avais plus parlé depuis très très longtemps. Et donc, le producteur m'appelle, me demande si ça m'intéresse. Je lis les bouquins de Jean-Claude Izzo. Je ne sais pas si vous
Tu es
avez
dans une
lu.
position de force avec ton agent au niveau contractuel, dans ce cas-là, j'imagine.
On n'est plus aisé, disons. Mais bon, les romans d'Izzo n'ont rien à voir avec Alain Delon. C'est-à-dire que le personnage est un personnage de 40 ans, de flic un peu clochard comme ça. Qui sort avec des putes, qui est gauchiste, ex-gauchiste, etc. Donc on se dit, c'est pour Alain Delon qui avait 65 ans à l'époque, qui a l'image qu'il trimballe quand même, etc. Je voyais pas trop. Et donc je me souviens, j'allais refuser le truc, parce que je vois pas comment on peut. Et en plus, c'était pour TF1, pour couronner le tout, c'est-à-dire que ça demande quand même une certaine forme d'écriture et de polar qui est quand même vraiment très 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 loin de Jean-Claude Izzo. Et donc, je me souviens, j'étais allé à pied, ça faisait 1 heure de marche de chez moi à la production, pour essayer de trouver une excuse pour ne pas le faire. Pour essayer de trouver un truc logique pour leur dire, j'y arrive pas. Et en fait, c'est en marchant que je m'étais dit, en fait, la seule façon d'y arriver, c'est de scinder le personnage de Fabio Montale en deux. C'est-à-dire que Delon, je garde, c'est Alain Delon, et le Fabio Montale des bouquins, j'en fais son adjoint. Et tout d'un coup, ça a marché. C'est-à-dire que j'ai séparé simplement le personnage en deux. Et ça marchait très bien. En gardant à peu près l'univers de Jean-Claude Izzo, sans trop le trahir, et en gardant Delon tel qu'il était, parce qu'il était quand même très peu bougeable comme personnage. Et on y arrivait. On y arrivait, donc lui était absolument enchanté. Et ensuite, il m'a demandé de lui créer une deuxième série 2 ans plus tard, qui s'appelait Franck Riva, où là j'avais carte blanche complète. Il voulait simplement garder le même mood que Fabio Montale, c'est-à-dire un vieux flic en fin de course. Voilà, et après j'avais fait le lion avec lui de l'adaptation du bouquin de Kessel. Ce qui fait pas mal de choses finalement.
Alors, tu as parlé de GMT, donc qui est un grand producteur de téléfilms, qui vient de produire un long métrage là, notamment de Benoît Jacquot.
Ouais.
On a reçu Benoît Jacquot récemment aussi. Donc, comment ça se passe les liens avec donc il y a Hamster, il y a GMT, il y a des grands producteurs reconnus dans dans le monde télévisuel avec qui tu as travaillé. Donc, est-ce qu'il y a une fidélité? Est-ce qu'il y a une complicité? Est-ce que, sans dire des noms, il y a parfois des confrontations, mais et de quel ordre, s'il y en a?
Bizarrement, moi, j'ai jamais eu de grandes confrontations avec des producteurs. J'ai eu des lassitudes. C'est-à-dire, comme en général, je travaille assez longtemps avec les producteurs. Il y a un moment, c'est comme un vieux couple, à part que ça va plus vite. Parce qu'à un moment, on s'use, on se surprend plus. Le producteur ne vous demande plus de choses qui vous intéressent ou qui vous excitent, mais vous demande de faire ce que vous savez faire. Et juste, il vous demande si vous êtes libre dans les dates et plus si ça vous intéresse. Et ça devient un peu fatigant et pas très marrant. Donc, en général, moi, j'arrête de moi-même quand ça devient comme ça, quand ça devient du fonctionnariat un peu chiant. Mais Guérin, par exemple, c'est un très bon producteur. Guérin, on avait fait Fabio Montal. Et juste après, il m'avait demandé qu'est-ce que tu aimerais adapter comme série noire, faire un remake. C'est quoi ton rêve de faire un remake? Et j'avais dit La Horse, le film de Gabin, j'aimerais bien le refaire. Et il avait acheté les droits du bouquin tout de suite. Enfin voilà, ça c'est génial, ça c'est des vrais producteurs. Pour ça, il était assez ouvert. Et donc on avait effectivement refait La Horse, comme ça, qui s'appelait Joseph, le film.
Alors quand on parle de GMT, donc ils viennent passer au long métrage, est-ce que c'est un fantasme pour les producteurs de téléfilms de passer au long? Est-ce que toi-même tu aimerais bien alterner téléfilms long métrage? Est-ce qu'il y a un cloisonnement aujourd'hui entre les deux aussi fort que par le passé? Comment tu vis les choses?
Non, je crois que le cloisonnement, il a quasiment disparu. Hein. Du fait que les films et les téléfilms soient produits par les télés, quand même, il y a un vrai cousinage maintenant entre les films et les téléfilms. Le fait qu'esthétiquement, ils se ressemblent pas mal aussi. Je crois que la vraie différence, elle se fait dans les thèmes, dans les sujets. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui ne peut pas être un téléfilm. Ça, il y en a, on ne peut pas.
Exemple.
Là, j'en ai pas tout de suite,
Les
mais.
Mains de Roxana, au départ, on aurait pu dire que c'était difficile à faire un téléfilm, par exemple. Justement, il y a
Oui.
beaucoup de critiques positives de ton téléfilm qui disent c'est étonnant que un tel projet passe en prime time,
Ouais.
et en saluant justement
Ça, je pense que
cette
ça vient
critique.
de ma qualité d'auteur-réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui me laissent faire en télé parce que j'ai les deux casquettes. Mais oui, c'est vrai que Roxana, c'est plus un film, je suis d'accord. Thématiquement, c'est plus un film. D'autant que c'est pas formaté télé, c'est pas raconté en téléfilm, c'est une narration elliptique, donc oui, c'est plus ciné. Donc c'est plus dans le choix des thèmes, et après, comme je disais tout à l'heure, des moyens. Les moyens, c'est bon, même si les films coûtent moins cher aujourd'hui, c'est quand même incomparable, quoi. Quand j'entends des amis techniciens qui me disent qu'ils tournent des fois à deux plans par jour, quand j'en fais 25, bon, c'est presque pas le même métier, quoi. On a droit à l'erreur, on a droit à faire des retakes, on a droit à plein de choses. En télé, on a ce qu'on a. Hein. Si le plan est flou, ben il est flou, quoi. On le refait pas. Voilà.
Tu disais à propos d'une de tes collaborations avec une autre grande maison de production, Hamster, qui a fait la série K numéro 1, que tu avais pu prendre un vrai plaisir, justement, parce que le carcan n'était pas trop important pour
Oui.
pouvoir développer à partir de, donc, dans la série, donc, il y a la Bible, et de pouvoir, à partir de là, quand même, trouver son propre épanouissement comme scénariste. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment est-ce qu'on peut, c'est une thématique qu'on aborde souvent ici au Master, à partir des contraintes, trouver une forme de création? Donc, comment est-ce que la contrainte n'est pas forcément négative?
Là, en l'occurrence, sur K numéro 1, qui est mon expérience, c'est à peu près ma seule expérience, je suis rentré dans une série déjà existante. Et je l'ai fait parce que la Bible était quasi inexistante. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. C'était une flic qui travaillait dans une gare avec un partenaire qui était Olivier Marchal. Et ils enquêtaient sur des braquages, sur des évadés, sur n'importe quoi. C'était très mince, quoi, le cahier des charges. Et donc, j'ai pu raconter à peu près ce que je voulais. Et moi, j'avais fait un épisode, je me souviens, avec un yakuza. J'avais carrément fait venir un malfrat du Japon qui tuait des yakuza à Paris. C'était complètement délirant. Et c'est passé. Parce qu'il n'y avait tellement pas de cahier des charges que ça devenait un film à part qu'une des héroïnes était celle de la série. Mais voilà, quand c'est aussi lâche que ça, c'est agréable, parce qu'on fait ce qu'on veut, quoi. Autrement, je pense que j'aurais beaucoup de mal à rentrer dans un carcan préétabli.
Alors, qui dit série dit aussi qu'il peut y avoir des guests, des
Ouais.
acteurs connus qui viennent faire une petite participation. Par exemple, dans les enquêtes d'Héloïse Rome, il y a Mathilde Seigner, Alice Taglioni, Bernadette Lafont, Marianne Medeiros, Valérie Caprischi, Nils Sarstrup. Donc, est-ce que c'est un plaisir aussi, à la fois comme réalisateur quand on fait une série, de pouvoir développer un univers sur plusieurs épisodes, et bien sûr comme scénariste, Est-ce qu'il y a un art du scénario différent pour la série que pour un unitaire ou pour un long métrage ?
Sur Héloïse Rome, je n'en ai pas réalisé. Hein. J'ai fait que écrire les 24 épisodes. Mais par exemple, Mathilde Seigny avait demandé que je lui écrive un rôle dedans parce qu'elle adorait la série. Elle avait demandé à ce qu'on lui écrive une guest et je lui avais écrit exprès pour elle. Donc ça, c'est arrivé une fois. Emmanuel Béart aussi voulait, mais on n'a pas eu le temps. La série s'est arrêtée avant. Mais voilà, ça, c'est le reste, c'est des castings qui ont accepté parce qu'ils aimaient la série. Ça joue pas mal. Ce qui est sympa, c'est quand la série marche et qu'elle est à peu près de qualité, les gens la regardent, les acteurs, dont les acteurs. Et certains ont envie de participer. Donc c'est plutôt agréable. Ça. On peut avoir des gens très connus qui viennent faire deux jours de tournage ou des choses comme ça.
Comme scénariste, alors est-ce qu'il y a un plaisir particulier à développer une série, à écrire la Bible, justement, et puis à pouvoir décliner dans plusieurs épisodes dans un même univers ?
Là, je parle d'expérience personnelle, oui, parce que j'étais seul auteur. Donc, je n'ai pas l'expérience collégiale maintenant qui est très réclamée par les chaînes, qui est de créer des collèges d'écriture, des ateliers, etc. Moi, les 24 et les Roms, je les ai fait absolument tout seul. Ma série Gréco, je l'ai faite tout seul aussi. Donc là, on a vraiment la liberté de développer les personnages sur très longtemps, de les faire évoluer. De voir le début d'une relation, le milieu et même la fin, voir comment une relation peut se dégrader.
Tu travailles de manière empirique ou déjà tu as une vision d'ensemble sur l'évolution d'un personnage, sur tous les épisodes ?
Non, ça se crée au fur et à mesure, ça. Ça c'est sur une série, parce que ça prend sa vie propre aussi. Une fois que le casting est fait, les relations des personnages s'affinent, s'affirment, et donc on se dit, tiens, ce serait marrant qu'à l'épisode 18, ils divorcent. Donc on amène à partir de l'épisode 14 un désaccord entre deux personnages et on... Voilà, donc ça, c'est des choses assez marrantes à faire, mais il faut avoir la maîtrise du produit, il ne faut pas être 60 dessus, à mon avis. Il faut écrire ou seul ou à deux, mais... Les ateliers d'écriture marchent très bien dans les pays anglo-saxons, ils travaillent que comme ça. Mais c'est une formation, ils travaillent comme ça depuis 50 ans, hein, donc c'est vraiment un apprentissage.
Toi, tu as trouvé un plaisir particulier à travailler avec un co-scénariste sur une série, je pense aussi, à laquelle tu fais allusion.
Oui, sur Ange de Feu, ouais. Ouais. Et là, c'était deux fois une heure et demie, donc c'était une mini-série. Et c'était intéressant parce qu'elle amenait... Ils voulaient une série de l'été, c'est-à-dire un gros mélodrame avec des histoires de secrets de famille, etc., ce qui, moi, ne me passionnait pas. Par contre, j'avais trouvé dans ce sujet quelque chose qui m'intéressait, qui était une approche justement quasi fantastique d'une malédiction gitane, etc. Il y avait un truc qui m'intéressait. Et je m'étais associé avec une scénariste qui, elle, adorait le côté mélodrame. Et le mélange, c'est vachement bien fait, parce qu'elle faisait ce qui ne m'intéressait pas et vice-versa. C'est-à-dire, ce qu'elle n'aurait pas fait, moi, je l'ajoutais. Et voilà. Et donc là, pour le coup, c'était intéressant. Et ça a apporté beaucoup...
C'est un beau mariage.
Ouais, ça a apporté beaucoup au film. C'est des trucs que je n'aurais pas osé faire, des histoires de jumeaux disparus depuis 30 ans. Jamais j'aurais osé, j'aurais dit, mais c'est too much, c'est horrible, etc. Et en fait, elle l'a fait, et ça passe très bien, parce que quand on aime faire ça, ça passe très bien, quoi.
Est-ce que, toujours sans citer de nom, il y a des expériences avortées de collaboration où les choses ne se sont pas faites avec un autre scénariste parce qu'il y avait mésentente sur le plan artistique ?
Non, pas vraiment. Non. Je crois que ça se fait quand les choses ne se font pas, quand il n'y a pas justement cette complémentarité. Voilà, quand on fait soit les mêmes choses, soit qu'on n'a pas envie de parler des mêmes choses et qu'on s'en aperçoit pendant qu'on travaille, etc. Là, évidemment, c'est... Ça marche pas et ça se défait avant, en fait. Ça peut pas se défaire pendant le travail, ça se défait avant.
Alors avant de parler plus précisément, et ce serait notre grande conclusion, hein, d'Eman Roxana, c'était l'origine de ta venue, j'aimerais bien que les étudiants de la promotion puissent poser des questions et donner leur avis aussi sur le film. Mais est-ce que tu peux nous dire s'il y a aujourd'hui des lignes éditoriales qui varient très fortement d'une chaîne de télévision à l'autre ? Et est-ce que c'est quelque chose une fois pour toutes scellé ou est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que ça dépend des personnes ? Ou est-ce qu'au-delà des personnes, il y a vraiment des politiques de chaîne qu'on retrouve d'année en année qui sont les mêmes, avec des mêmes objectifs, Canal+, France 2, France 3, Arte ? Parce que toi, par exemple, tu as plus travaillé pour France 2, si je ne m'abuse.
Oui, beaucoup travaillé pour France 2, mais les gens changent tellement à l'intérieur des chaînes, et tellement souvent, et les lignes changent tellement, que là, j'ai un peu de mal à voir, même sur TF1, ça devient plus flou, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, ils préconisaient les séries qui se passaient en vacances, genre camping ou la croisière, etc. Ça a tendance à moins marcher maintenant, donc tout ça devient moins net à un moment donné. Je trouve que France 3 est la seule qui a une espèce de politique
récurrente.
Récurrente de tournage de policiers familiaux en province avec des gens d'un certain âge. Enfin, ils ont leur public, ils le connaissent. Et ça fonctionne parce que la ligne, elle bouge pratiquement pas, quoi. Et c'est... Bon, c'est sécurisant, hein. Mais sur les autres chaînes, non, je crois que ça bouge vraiment tout le temps, sans arrêt.
Alors, on en vient en main de Roxana, donc je voudrais d'avoir donné la parole aux étudiants ici présents, s'ils ont des remarques ou des questions à faire. J'espère que vous avez tous pu voir le film, Anna.
Non. Non, non, c'est de, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Quand on parle de la production.
Oui, oui, non, non. Non, non, c'est un truc, c'est des choses à part qui s'appellent, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est des personnes complètement différentes.
Donc en fait, quand vous faites le film pour la télévision, c'est plutôt en fait une direction artistique.
Mmh.
Et quand vous faites, quand c'est purement pour le cinéma, c'est juste la production en fait. Il n'entre pas dans les questions.
Si, un peu quand même. Un peu quand même, parce que quand les chaînes de télé coproduisent un film, ils veulent pouvoir le passer sur leur chaîne après. C'est pour ça qu'ils coproduisent, donc ils veulent que ça ressemble un peu à leur politique éditoriale et leur public. Donc forcément, ils influent sur le sujet, sur le traitement du sujet et un peu sur le casting aussi, parce qu'ils veulent que les gens attirent des gens sur leur chaîne, donc des publicitaires, donc enfin tout ça est pas simple.
Donc c'est qui votre interlocuteur là ?
Moi, j'ai pas fait de long métrage plus longtemps, donc dans ces conditions-là, donc je les connais pas pour l'instant. Mais en télé, je sais que les chargés de programme dont je parlais tout à l'heure. Non, c'est pas un choix de chaîne, là, en l'occurrence. C'était. C'est-à-dire, sur ce film, j'ai voulu être tout le temps sur les deux tableaux. C'est-à-dire que la possibilité qu'elle soit folle ou qu'elle soit possédée. Donc, on a quand même les deux choses. Et la faire tuer sa propre fille ou tenter de tuer sa propre fille, ça devenait presque un film d'horreur. C'était un peu différent. C'était pas tout à fait la direction où je voulais aller. Il y a évidemment le fait que je savais que j'écrivais pour un prime time pour France 2. Et que ça, c'est des trucs auxquels on ne touche pas du tout en prime time. Hein, le meurtre d'enfants, voilà. Donc, c'est pas de l'autocensure, je n'irai pas jusqu'à employer ce terme-là. Mais je ne suis pas suicidaire non plus. Je ne vais pas me mettre à écrire des scènes dont je sais qu'on va me dire refais-les. Voilà. Donc, mais en même temps, ce n'est pas une envie profonde que j'avais d'aller de ce côté-là. Je trouve qu'au niveau scénaristique, ça va déjà assez loin pour un prime time service public. Quoi. Sur l'ambiguïté thématique, etc. C'est. Ouais.
Combien de jours de tournage ?
Très peu, on avait 22, je crois, 21, 22. Très peu.
Les jours de préparation ?
Pareil.
C'est toujours 21, équivalent 22. Plus ou moins le nombre de jours de préparation, le nombre de tournage.
Ouais.
On ne peut pas négocier avec les producteurs d'avoir plus de préparation pour gagner, justement.
On ne négocie plus avec les producteurs.
Pas de négociation avec les producteurs ?
Non. Non, non, c'est très peu de préparation. Et là, encore, je crois encore moins que d'habitude. Et tournage très bref. Ce qui demande énorme préparation, c'est-à-dire énorme concentration sur le moment où on prépare, vraiment. Parce que sinon, on se laisse déborder très vite sur le tournage, très très vite. Certains oui, certains non.
Ça va. Vous n'avez pas fait de répétition avec les comédiens ?
Non, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Je le fais à chaque fois, mais là, on n'a pas eu le temps du tout. Parce que Sylvie Testu tournait un film juste avant, Lou Denis et Lyon tournait sa scène de ménage toute la journée. Impossible de coincer les gens, donc on a fait sans lecture, ce qui est assez risqué quand même. Et ça a marché heureusement, mais... Non, c'était assez risqué. Comme, pour parler des mains de Roxana, il y a des tas de choses qu'on a fait qui sont très risquées au niveau de la mise en scène. Hein. Je pense à un plan, moi, qui m'a marqué, parce que je trouve qu'on était à la limite, et qui ne se remarque pas hein, dans le film, c'est le plan où ils se parlent tous les deux à la sortie de la boîte de nuit. Et qu'on les voit, il lui fait écouter son Walkman, etc. On l'a fait en un plan de dos, en plan séquence de dos sous la pluie. Normalement, je devais faire quatre plans, un plan de face, un plan de truc, on n'a pas eu le temps. Il faisait trop dégueulasse, il y avait du vent partout, etc. Donc, j'ai quand même décidé qu'il n'y aurait qu'un plan de dos. Bon, miracle, ça marche, mais c'est des risques, je trouve. Parce que si c'est chiant, si c'est...
Est-ce qu'il peut y avoir des risques au cas où il y a un vrai problème au montage ?
Non, non, réellement, non. Non, très peu. Très peu. Très peu. Là, par exemple, ce plan en particulier, c'était lumière naturelle, avec deux pauvres électros qui se promenaient avec des lampes à côté des acteurs. Mais ça, c'est ce que j'aime, hein, réellement. C'est arriver à faire du propre avec pas grand-chose, quoi.
Anna et puis Colline, ou Colline et puis Anna, comme vous voulez.
Ah non, non, c'est moi. C'est que mon choix de mise en scène, c'était de... Parce que comme c'est une longue scène dialoguée, ça c'est une règle que je m'impose, il n'y a pas de règle écrite, mais quand ça dépasse les deux pages, le dialogue, vaut mieux avoir pas mal de plans pour dynamiser, c'est-à-dire éventuellement pouvoir couper dedans, enlever des répliques, etc. Si on a un long plan séquence, il n'y a rien à couper. C'est-à-dire soit on coupe en tête, soit on coupe en queue, mais au milieu, on ne peut rien faire. Et là, c'est en ça que je dis que c'est un énorme risque, parce que la scène, elle dure 2 minutes. Si c'est chiant, c'est fini, hein, on ne peut rien faire. Donc là, il se trouve que ce n'était pas chiant, parce qu'ils jouaient bien, parce qu'ils connaissaient leur texte, parce que c'est joli à regarder, etc. Mais ça aurait pu ne pas. Donc c'est des risques que moi, je n'aime pas trop prendre. Ça, c'est-à-dire, si ce n'est pas bon, il faut enlever toute la scène, c'est ça que je veux dire. Si c'est raté, il faut tout sauter. Pas que des dialogues, mais par exemple, quand on écrit, quand je réalise moi que je sais à l'avance combien de jours de tournage j'aurai, je sais par exemple, maintenant j'arrive à penser en décor. C'est-à-dire qu'il est évident qu'un décor, on ne peut pas y aller qu'une seule fois. Voilà, donc je sais que ce décor, il faut qu'on y retourne au moins 3 fois pour qu'il soit rentabilisé au niveau du temps. Exemple, par exemple, si par exemple j'ai une scène de commissariat, une. C'est ridicule, parce qu'on va aller tout installer, amener le camion, éclairer le décor, etc., tourner 1 heure, et après, il faut tout déséquiper et aller dans un autre décor. Donc, c'est pas possible, on perd 2 heures. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à être assez malin pour replacer des scènes qui n'étaient pas au commissariat dans le commissariat. C'est un exemple, hein, c'est pas comme ça dans le film, mais pour qu'on sache qu'on a, par exemple, une demi-journée entière dans ce décor-là.
Est-ce que les scénaristes qui ne sont pas réalisateurs pensent que...
Non, c'est ça le problème. C'est le problème, c'est que quand on n'a pas conscience du terrain, ce qu'on disait tout à l'heure, on se dit qu'après tout, c'est pas grave s'il va dans un bar pendant une scène de 30 secondes et qu'après, non, c'est impossible, c'est pas jouable au niveau physiquement du tournage. Donc c'est pour ça qu'un décor doit servir plusieurs fois. Ce que j'appelle les contraintes d'écriture, c'est s'imaginer qu'on va tourner ce jour-là, la longueur de la scène, et se dire, je remplis une demi-journée s'il y a au moins 3 séquences dans ce décor. Qu'après, il y a la coupure déjeuner et qu'après, là, je peux me permettre un autre décor de temps de temps, voilà. Donc c'est très technique en fait.
C'est de tomber dans une sorte de remplissage, de rentabilité en tout cas.
C'est le tournage télé, hein. Je parle tournage télé.
C'est une censure pour vous.
Oui, non, c'est pas une censure, c'est une...
Contrainte.
C'est une contrainte, ouais, c'est pas pareil. Après, moi je le prends plutôt comme un challenge, parce que comme maintenant je manie bien ce genre d'écriture, je m'amuse après à me dire comment je vais faire pour me sortir de là. Et c'est vrai que tout d'un coup, au lieu de faire aller le flic chez elle pour l'interroger, bah, il l'a fait venir au commissariat, par exemple. C'est arrivé à rendre ça crédible dans le scénario. C'est un exemple, hein, toujours, mais voilà, c'est des choses qui m'amusent. Et des fois, ça ne marche pas, il faut changer complètement son fusil d'épaule et enlever complètement le commissariat. Se dire, c'est même pas la peine, on n'y arrive pas. Donc en fait, ce commissariat, on le fait passer ailleurs.
Mais est-ce que, j'ai une petite parenthèse, les frères Dardenne qui sont très loin de ton univers, hein, mais... prétendent que le plan de travail, c'est aussi un choix de mise en scène. Et par exemple, eux, dans leur film, ils souhaitent tourner dans la continuité du récit. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un décor qui arrive au début, au milieu, à la fin, eh bien,
il retourne.
Et ils prétendent que ça les aide pour la direction d'acteur. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue? Est-ce que tu penses que c'est tout à fait suranné ou que ça peut avoir sa logique dans une certaine démarche?
Sur un film unique, je ne crois pas. Enfin, pour moi, non, un acteur, il est suffisamment professionnel pour savoir que la scène qui tourne là correspond à 10 jours après celle qu'on a fait avant dans le même décor. Enfin, normalement, un acteur bien préparé, qui a une bonne script, qui lui remet le film en tête, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, j'ai fait un tournage une fois de 66 jours, de 6 fois 1 heure, où, par exemple, on a tourné une semaine entière dans le décor de l'appartement du personnage principal. Et là, il y avait toutes les scènes de tous les épisodes dans l'appartement. Là, c'est compliqué. Là, pour le coup, parce qu'on ne sait plus de quel épisode ça correspond, avec quel personnage il fait. Là, c'était très, très compliqué. Et même pour nous, comme pour l'acteur. Hein,
Et quand on dit que cette idée que le plan de travail est aussi un choix de mise en scène, c'est-à-dire que l'ordre, par exemple, de ce qu'il faut, certains réalisateurs prétendent qu'il faut commencer le tournage par une scène difficile pour tout de suite que l'équipe soit sur le qui-vive, d'autres au contraire... Il faut commencer progressivement par quelque chose qui n'est pas un vrai enjeu.
Chacun son truc. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie d'avoir une journée un peu simple et de booster à mort. Pardon. C'est-à-dire d'avoir des scènes pas très compliquées à tourner et de forcer, de faire le maximum de plans, même trop, histoire de mettre l'équipe en condition pour le lendemain. Alors que si on va tout de suite dans un truc extrêmement difficile, c'est pas sûr que... Parce qu'il n'y a pas que les équipes, il y a aussi le matériel. Par exemple, des fois, on se rend compte que la caméra ne démarre pas, qu'il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Et donc, vaut mieux ne pas avoir trop de choses impossibles à faire. Enfin, en l'occurrence, Roxana, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'on a commencé par la bagarre et, avec le tueur russe, là, et c'était assez compliqué. Mais en général, je fais ça. Je ne suis pas vraiment le bon client pour qu'on me dise des choses comme ça, parce qu'en fait, je suis vraiment auteur-réalisateur. Donc, et même, je vous dis, je ne suis jamais rentré dans des projets de formatés. Donc je fais plutôt partie d'un truc un peu atypique dans l'écriture télé. Hein. Je n'ai jamais fait de Julie Lescaut, je n'ai jamais fait de choses comme ça. Bon. Donc je suis un peu. Mais par contre, sur la technique d'écriture, c'est sûr que je suis rassurant pour un producteur, c'est évident. Parce que j'ai les clés. Et surtout, je sais que ce n'est pas la peine de faire autre chose que ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, si par exemple, vous allez à TF1 et que vous leur proposez du Romer, il ne faut pas vous étonner de vous le faire envoyer la gueule. C'est-à-dire, ils n'en veulent pas. Donc, c'est du masochisme d'aller leur dire je veux faire un film d'auteur, machin, qui commence en flashback, etc. Et en noir et blanc, c'est dehors, quoi. Donc, ce n'est pas une lutte qui est intéressante. Par contre, si vous avez décidé de travailler pour TF1 parce que ça vous intéresse ou vous voulez payer vos impôts ou n'importe quoi, ben, vaut mieux avoir les clés et savoir le faire, quitte à vous exprimer ailleurs autrement. Ce que je fais moi en écrivant des romans ou en réalisant des films un peu compliqués comme Roxana ou des choses comme ça. Voilà. J'ai un co-auteur depuis deux ans, presque trois maintenant, avec qui ça se passe très bien justement parce que c'est pas facile à trouver.
Tu peux dire qui ?
Il s'appelle Serge Lascar, c'est un monsieur qui ne faisait pas du tout ce genre de film avant de ce que je fais moi. Il avait fait des films sur la guerre d'Algérie, des trucs historiques pour France 3 ou Arte.
Fiction donc.
Ouais, fiction. C'est un graphologue de formation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à rentrer dans mon univers, dans ce que j'ai envie de raconter. Et on établit ensemble, par exemple, le traitement d'un scénario, les 30 pages à écrire, c'est lui qui les rédige. Et quand je les lis, j'arrive à avoir un œil critique que je n'ai pas quand c'est moi qui écris. Donc ça, c'est très important. J'arrive à lire en disant, ce n'est pas mon écriture, donc j'arrive à juger, à dire ce qui ne marche pas et ce qui est redondant. Et voilà. Donc ça, oui, c'est très important, mais il faut le trouver. Moi, j'ai mis des années à trouver quelqu'un avec qui je pouvais travailler comme ça. En général, je ne le fais pas, je n'ai pas eu l'occasion. Là, sur ce film-là, ben, on l'a choisi au hasard. Hein. On s'est dit, tiens, Serbe, comme l'acteur était russe. Donc, on a choisi Serbe, mais il n'y avait pas de. Non, franchement, il n'y avait pas d'idée préconçue ou de stéréotype. C'était vraiment pour trouver quelque chose. J'ai pas de souvenir qu'il y ait eu un choix particulier. On a pris Serbe, qu'on aurait pu prendre autre chose.
Mais quand même, c'est l'Europe de l'Est, quoi. C'est souvent typé.
Oui.
Oui. Ça tombe bien, je voulais dire, parce que ça convient à tout le monde. Quand il regarde le film, il s'est dit, ah oui, tiens, c'est vrai, hein. C'est normal.
Bon, peut-être, je ne sais pas, c'est possible.
Eisenstein aussi, dans La Grève, par exemple, il utilise des stéréotypes de visage, plus ou moins.
Mais là, en l'occurrence, si j'essaye de réfléchir à votre question de manière honnête, c'est parce que c'est un petit rôle, et que donc il faut le typer très vite, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas s'étendre sur sa vie, sur son passé, pourquoi il fait les choses, c'est une crapule. Et puis, voilà, comme on voulait que ce soit un ancien militaire et un tireur d'élite, etc. Voilà, ça, c'est ces choses qui résument. Effectivement, on se sert de stéréotypes, c'est vrai. Mais parce qu'on n'a pas le temps ou pas l'envie, ou pas et ce n'est pas le propos, de développer ce personnage vraiment. Donc, on se sert juste de son apparence. Et cette apparence est forcément un peu stéréotypée, oui. Non. Non, ce que j'aimerais, c'est juste pouvoir choisir le nombre de jours de tournage. Voilà. Pouvoir me dire, ce film mérite tant de jours, sans être fou. Et je les veux juste
ça
pour faire
jamais,
le...
Ça ne t'est jamais arrivé?
Non. Jamais. Me dire, juste, voilà, c'est pour faire un film honnêtement. En général, ça commence comme ça en télé. Hein. On commence à dire, il faut 29 jours pour faire ce film. Le producteur dit, pas de problème, tu penses ce que tu veux, Coco. Vas-y, l'important, c'est que le film soit bon. Et au bout d'une semaine de préparation, il arrive en disant « Non, 29, ça ne va pas être possible, il faut 20. » Et après, on dit « Ah ben non, 20, ce n'est pas possible. » Et on arrive à remonter à 22. Voilà, en général, c'est ça, hein, comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'un film comme Roxana, si j'avais eu une semaine de plus, ça se verrait, quoi. C'est évident.
Ça vous arrive de surévaluer le nombre de jours pour après
avoir
un droit à moins?
Non, vraiment pas. Mais par contre, sur la question de la contrainte, il y a un film qui m'avait beaucoup marqué, moi, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le tournage de l'Enfer de Clouzot. Vous l'avez vu, ce film? Il y a un moment où quelqu'un raconte la jeunesse du film, etc. Il raconte que Clouzot avait fait des essais filmés qu'on voit d'ailleurs dans le film, des trucs de lumière incroyables, etc. Et les producteurs américains du film avaient trouvé ça tellement génial qu'ils ont dit « carte blanche, faites ce que vous voulez ». Il est devenu fou, Clouzot. Et le film s'est jamais fini. Donc ça, c'est le problème du pas de contrainte aussi. C'est-à-dire qu'il a fait tout d'un coup 900 jours de tournage, on refait tout, on vire les acteurs, on remplace, on refait. Et quand il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrainte. Donc, ils font un très très bon producteur. Là, il y a apparemment, je ne sais pas qui l'a fait, mais enfin, en tout cas, ça m'avait beaucoup frappé dans ce truc sur l'enfer. Le jour où on lui a dit carte blanche, c'est parti complètement en morceaux. Les deux, oui, il faut retravailler le scénario, évidemment. Évidemment, il faut pas forcément couper, mais ce que je vous dis, regrouper des décors, ou alors faire ce qu'on a fait sur Roxana, par exemple, ce qui est alors là une gymnastique infernalement difficile, ce qui est d'arriver à tourner, à trouver un décor où on peut tourner plein de décors. C'est-à-dire, par exemple, dans l'hôpital psychiatrique, enfin, l'hôpital où elle est, la clinique en Hollande, où elle est, par exemple, on a tourné l'appartement d'Almeida, le commissariat, le machin, selon les étages. Alors, ça se voit pas. Mais ça veut dire qu'au lieu de déplacer les camions, il suffisait qu'on monte les projecteurs. Donc c'est des repérages très difficiles parce qu'il faut à chaque fois...
Est-ce qu'il y a un dialogue vertueux avec un directeur de production parfois pour savoir où doivent être faites les économies, sur quel poste plutôt que sur tel autre? Parce que là on parle du nombre de jours de tournage, mais il n'y a pas que ces paramètres-là,
non, non.
Il y en avoir d'autres.
Oui, bien sûr, le directeur de production en préparation est très présent. Après, il disparaît plus ou moins sur le tournage si on travaille normalement, mais... Il est là pour nous dire, on a cet argent-là et pas plus, où lui arrive à déplacer des sommes d'argent de tel poste à tel poste pour créer un confort sur un autre. Par contre, il faut sacrifier. C'est toujours pareil, hein, c'est le compromis permanent, quoi. Là, par exemple, on a un peu sacrifié sur la déco. On a trouvé des décors qui n'avaient pas besoin d'énormément de déco. Voilà, donc tout ça, c'est ce que j'appelle la préparation. Oui, c'est une question d'attitude personnelle aussi. Hein. Moi, j'aime bien savoir, moi, avant. J'aime pas qu'on m'apprenne au dernier moment qu'on m'a promis un truc et que je l'ai pas, ou qu'on me mente. Donc, c'est vrai que j'essaye de m'impliquer en production très tôt pour savoir les choses telles qu'elles sont. Parce que ça permet de...
Ça veut dire que chaque réalisateur est un peu producteur, même s'il n'est pas...
On peut pas décemment faire un film sans avoir aucune notion de production. C'est de la folie. Surtout aujourd'hui, hein, c'est impossible. C'est impossible parce que... Je sais pas, de dire par exemple, je voudrais deux grues pour faire ce plan, par exemple, quand on sait à peu près combien ça coûte et qu'on sait le budget qu'on a, on va pas les demander les deux grues. On va trouver un autre moyen de mise en scène pour avoir le même effet sans les deux grues. C'est un exemple, hein, mais en tout cas, dans l'économie actuelle, je parle surtout en télévision, c'est impossible, je pense, de faire un film sans avoir aucune notion de budget et d'économie. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je sais que mes films, il y a des tas de choses qui se ressemblent dans mes films. Alors, je ne sais pas si c'est une patte, une griffe ou quoi, mais c'est un rapport au rêve, beaucoup. Par exemple, dans Roxana, il y a beaucoup de rêves. Et ça, j'en ai fait beaucoup dans mes films. C'est des séparations fantomatiques. C'est des effets à la fois simples et angoissants, comme par exemple les moments où elle se voit dans le miroir et c'est plus elle dans le reflet. C'est des choses très simples, mais qui suscitent une peur un peu viscérale, mais très naturelle. Enfin, bon, voilà, c'est des choses... La griffe, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être les très très gros plans chez Sergio Leone, ça peut être. Voilà. Oui. Oh oui, bien sûr. Bien sûr. Journée de tournage, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je me réveille tôt, j'arrive avant tout le monde. Je fais le découpage de la journée avec l'assistant et le chef opérateur.
Et la script.
On fait le découpage plan par plan de tous les décors toute la journée, etc. Ensuite arrivent les acteurs, on va leur parler, on leur explique grosso modo ce que va être la journée. Et ensuite on assiste à l'éclairage des décors, on demande des petites modifications. Les acteurs arrivent maquillés, on fait la première répétition. Et en général, si tout s'est bien passé, au moment où on a fini la première répétition, on arrive à l'heure prévue du début de tournage, c'est-à-dire 9h par exemple. Et à 9h précise, je dis moteur et on fait le... Ça c'est quand on est bien préparé. En général... Ce qui se passe, et pourquoi il y a des dépassements terribles sur les tournages, c'est que les gens arrivent à 9h et disent « Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?»« Ah, c'est ce décor-là, d'accord. Et voilà, et on tourne à 11h30 avec tout le monde énervé. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc la préparation, ça demande effectivement de se lever très tôt.
Donc le réalisateur est celui qui se lève le plus tôt et qui se
met. Mais c'est vrai. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Et ça crée des rapports très singuliers avec l'équipe, parce que le fait que même les électros arrivent après, ça crée un truc de respect sur l'équipe, parce qu'on est là avant tout le monde. Et, donc voilà, mais ça, moi, je l'ai toujours fait. Hein, c'est marqué PAT 9h, ça arrive. Hein. Les acteurs, en tout cas, ça arrive. Hein. C'est pour ça qu'en général, c'est pour ça qu'on les envoie chercher, en général, par des régisseurs. Parce que si on les laisse venir par leurs propres moyens... PM, comment on dit, PPM, par ses propres moyens, en général, ils arrivent à l'heure du tournage. Quoi. On se dit, ah ben merde, j'avais pas compris, je croyais.
Ah, peut-être un petit mot de conclusion, Philippe, sur d'abord l'avenir, les projets en cours, les désirs de cinéma, de téléfilms, ouais. de livres.
Ben, tout ça en même temps. Là, j'ai deux projets d'adaptation de Polar pour la télé, en écriture. J'ai
un projet de France 2 ou
France 3. France 3, et oui, c'est ça, France 3. Et là, j'ai un projet de long métrage avec Testu, avec Sylvie Testu, que j'ai envie de retrouver, qu'on a envie de se retrouver sur un truc plus, justement, avec un peu plus d'argent et plus de confort, et qui est un sujet, alors là, pour le coup, impossible à faire en télé, qui est une espèce de survival à la délivrance, un peu très, très violent, très âpre, etc. Donc, que télé, que cinéma, pas télé. Donc ça, c'est un projet de longue haleine, je ne sais pas quand on pourra le monter, mais ça démarre pas mal et elle a très envie de le faire, moi aussi. Voilà, et puis toujours des bouquins, une série de bouquins que j'essaie d'écrire.
C'est une dernière question, parce que Sylvie Testu vient de passer à la réalisation.
Ouais.
Est-ce que ça change le rapport qu'on a avec un acteur quand il est aussi réalisateur?
Alors oui, c'est intéressant parce que moi, je n'avais jamais vécu ça. Alors soit il paraît que ça peut être pire, c'est-à-dire que si l'acteur a tâté de la réalisation, il ouvre sa gueule tout le temps sur vos choix, en disant « Ah bon, tu fais ça comme ça, moi je l'aurais pas fait comme ça, nanana, ça c'est un peu embêtant. » Là, j'ai pas eu ça du tout. Au contraire, elle, je crois qu'elle en a pas mal bavé sur son tournage, comme réalisatrice, et donc elle était extrêmement humble et compatissante. C'est-à-dire, quand il y avait un problème, elle était à côté de moi, elle me disait « Courage, tu vas y arriver, etc. » Donc ça, c'était très, très sympathique, ça. Parce que, oui, parce qu'elle avait connu l'autre côté du miroir, simplement. C'est qu'au lieu d'arriver, de se faire pomponner, arriver sur le tournage à l'heure précise, où tout est réglé, elle arrivait, elle aussi, avant tout le monde, pas réveillée, à boire son café froid, etc. Donc elle a connu l'envers du décor et c'était bien. Ça aide beaucoup.
On termine sur l'envers du décor, alors ?
Allez.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci.